Chapitre 2. Bâti sur du sable. Holmes se sentait beaucoup mieux depuis qu'il avait déménagé ses pénates chez Madame Stevens et qu'il se passait de l'hospitalité de John et Clara Hay. Bien sûr, il n'était pas totalement débarrassé de Henry James, qui résidait aussi à la pension, mais la chambre de James se trouvait tout au bout du couloir et il n'était plus tenu de se voir à tout bout de champ ni de partager systématiquement leur repas. Il était libre comme l'air, le premier étage disposant d'une sortie donnant sur un escalier en bois dont les pensionnaires détenaient tous la clé. Holmes pouvait donc aller et venir à sa guise et dans le costume qu'il voulait, sans avoir à redouter d'être surpris par Henry James ou le personnel de Maison des Hayes. Il sortit ce matin-là sans se travestir, portant simplement son costume de ville londonien, gilet, haute forme et gants, une tenue complétée par une longue écharpe noire et une canne épée qui tirait, offrait une lame triangulaire de 76 cm de long, tranchante comme un rasoir. Après avoir traversé Lafayette Square, Holmes héla un cab et demanda au cocher de le conduire à la direction générale de la police métropolitaine, au coin de la 5e rue et de Louisiana Avenue. Une fois arrivé à destination, il fit arrêter le cocher de l'autre côté de la rue face au vieux bâtiment décrépit. Il n'eut pas à attendre plus de 10 minutes avant de voir le chef de la police de Washington, William Seymour, descendre les marches du perron en regardant sa montre d'un air irrité et faire signe à un cab. Holmes ordonna à son cocher de le suivre alors même qu'il savait parfaitement où il se rendait. Holmes n'avait jamais rencontré le divisionnaire Moore, mais il avait vu des photographies qui lui permettaient de le reconnaître sans aucun doute possible à sa barbe blanche un peu semblable à celle du général Lee. D'après ce qu'il venait de voir, le divisionnaire était tendu et pas étonnant pour un homme habitué à donner des ordres et non à en recevoir, et qui se retrouvait convoqué à une réunion dans des locaux aussi modestes que ceux du Maltby Building à la demande d'un clampin du département d'État. Le cab de Holmes s'arrêta au coin de New Jersey Street et de Constitution Avenue au moment où Moore descendait de voiture. En mettant pied à terre, le divisionnaire manqua de se heurter à son prédécesseur, l'ancien chef de la police métropolitaine, William J. Brock. Alors que la barbe de Moore était fournie, ample et prospère, celle de l'ancien divisionnaire, grisonnante et clairsemée, accentuait son air d'Hécatie.
« Que faites-vous ici ?»
attaqua Moore.
« Je vous retourne la question. »
rétorqua Brock. Les deux hommes se détestaient, comme Holmes le savait très bien. Brock et Holmes se connaissaient de vue et surtout Brock avait de bonnes raisons d'en vouloir à Holmes, qu'il haïssait encore plus que son remplaçant à la tête de la police métropolitaine. Avant de descendre de son cab et de payer le cocher, Holmes attendit que les deux hommes entrent dans l'immeuble, toujours aussi furieux et se mitraillant de questions. Holmes avait interrogé John Hay sur l'origine du Maltby Building la semaine précédente, prétextant qu'il avait été intrigué par ce bâtiment lors d'une promenade. Hay avait alors expliqué en riant que l'ascenseur y était un danger public, car cet ancien immeuble de 4 étages, dont les appartements avaient été convertis en bureaux sénatoriaux 20 ans plus tôt par un entrepreneur new-yorkais, avait été construit sur l'emplacement d'une ancienne écurie. Et, comme c'est le cas pour tant de choses à Washington, avait complété Hay, l'immeuble avait été bâti sur du sable. En conséquence de quoi, la lourde masse de l'ascenseur s'enfonçait en se dissociant du reste, et le sol de la cabine s'arrêtait 20 cm en dessous du niveau des étages. Et pour couronner le tout, avait ajouté Hay avec un rire, il y fait un froid glacial en hiver, une chaleur insupportable en été, et les rares bureaux qu'on y laisse sont horriblement exigus. Parfait, avait songé Holmes, qui avait aussitôt envoyé une dépêche à son frère Mycroft pour lui demander d'inviter à une réunion au nom du gouvernement britannique quelques hauts responsables américains dont Moore et Brock, en indiquant que la rencontre aurait lieu au bureau de l'inspection des navires à vapeur au 3e étage du fameux building. L'inspecteur général de l'inspection des navires à vapeur, un certain James A. Dismont, avait été averti par le département d'État de cette invasion matinale de ses locaux sans aucune explication. Ainsi, quand l'assistant de Dismont, un dénommé Andrew McWilliams, à en croire le porte-nom posé sur sa table, introduisit Holmes dans le bureau déjà bondé de l'inspecteur général, le détective trouva une atmosphère survoltée et une cacophonie de voix furieuses dont la plus forte était celle de William Seymour. Holmes frappa 4 coups de canne vigoureux sur le plancher et toutes les têtes se tournèrent vers lui.
« Messieurs, déclara-t-il avec autorité, je m'appelle Sherlock Holmes, et c'est à ma demande, par l'intermédiaire de Whitehall, en passant par votre président et votre département d'État, que nous sommes rassemblés ici, ce matin. Monsieur Dismont. » Holmes adressa un signe de tête à l'inspecteur général de l'inspection des navires à vapeur. Nous n'allons avoir besoin de votre bureau que 3/4 d'heure environ, et nous vous invitons à sortir des locaux avec votre assistant, Monsieur McWilliams, pour aller profiter de cette magnifique journée de printemps pendant une petite heure. » Dismond eut un sursaut de révolte, mais vaincu par l'éminence de l'assemblée, il baissa la tête et ressortit en refermant bien gentiment la porte derrière lui. Holmes laissa à l'inspecteur général et à son secrétaire le temps de s'éloigner, puis il se tourna vers les hauts responsables indignés et leva un index ganté. « Stop ! Avant de protester, je vous prie de prendre en considération que cette réunion a été approuvée par Sa Majesté la Reine Victoria et le Président Cleveland, et que notre gouvernement et votre département d'État, visant la plus extrême discrétion, ont exigé le choix d'un lieu écarté. »
« Mon bureau à la Direction Générale de la Police aurait été beaucoup plus adéquat !»
gronda le divisionnaire Moore dans sa barbe blanche. « Non, monsieur le divisionnaire, non !» répondit aimablement Holmes. « Car non seulement la direction de la police métropolitaine est surveillée à l'extérieur par tous les gangs de Washington, mais elle est aussi gangrénée à l'intérieur par des fonctionnaires à la solde des criminels. »«
Calomnie !»
rugit Moore.
« Toujours aussi infâme !»
éructa l'ancien divisionnaire Brock.
Monsieur Holmes a déjà accusé il y a 10 ans mes inspecteurs d'être corrompus. Par la faute de ses mensonges, j'ai perdu ma place en 1883.
Holmes opina du chef. C'était fâcheux, je le reconnais. On m'avait fait venir en Amérique pour enquêter sur l'assassinat du président Garfield, et plus précisément pour déterminer si le tueur, Charles Guiteau, avait partie liée avec les conspirateurs anarchistes accusés d'avoir voulu attenter un peu plus tard à la vie de la reine Victoria. Mon enquête a démontré que Charles Guiteau avait l'esprit dérangé et avait agi sans complice, animé par ses seules divagations. Mes recherches ont cependant démontré que de nombreux inspecteurs de votre police étaient corrompus et qu'ils recevaient des pots de vin des milieux anarchistes. Brock tourna le dos à Holmes et alla regarder par la fenêtre. Avant que Moore ne se remette à hurler, Holmes se dépêcha d'ajouter « Permettez-moi de vous présenter les 3 autres personnes présentes aujourd'hui à la demande du président Cleveland. » Holmes désigna un gentleman de petite taille, fort bel homme, qui se trouvait non loin de Brock du côté de la fenêtre. Moustache cirée aux pointes à la française et cheveux noirs gominés, il aurait eu l'air d'un dandy si son menton n'avait été aussi carré, sa bouche ferme et son regard décidé. « Monsieur William Rockhill, si je ne m'abuse, » dit Holmes. Secrétaire exécutif du 3e secrétaire d'État assistant, il sera notre interlocuteur au département d'État et fera le lien avec divers gouvernements européens en cas de besoin. Rockhill salua Holmes d'une inclinaison de la tête. « Un plaisir de vous rencontrer, Monsieur Holmes. » Il salua de même les autres personnes présentes. « Monsieur le vice-président, messieurs. » Holmes se tourna vers un grand homme aux cheveux blancs séparés par une raie au milieu qui gardait le silence, le seul dans la pièce, à l'exception de Holmes à ne porter ni barbe ni moustache. « Monsieur Drummond, je présume ?» Le grand homme s'inclina légèrement. « Andrew L. Drummond, pour vous servir. » « Monsieur Drummond est actuellement chef du service au département du Trésor, » indiqua Holmes. Drummond approuva de la tête, ses yeux très bleus semblant briller d'un léger amusement.
« Je ne vois pas ce que le département d'État et le département du Trésor peuvent bien avoir à fabriquer ensemble ici !»
s'indigna le divisionnaire Moore.
« Et je dirais même plus !»
ajouta-t-il en levant sa canne pour désigner Holmes.
« Je ne comprends pas ce que vous fabriquez ici, monsieur, et en vertu de quel droit vous donnez des ordres au chef de la police métropolitaine !»
Sans laisser à Holmes le temps de répondre, le 6e et dernier membre du groupe, un homme discret, dégarni et moustachu d'une 60aine d'années, resté à l'écart jusque-là, intervint d'une voix posée.
« À cela, je peux répondre, monsieur le divisionnaire. Je suis le vice-président Adlai E. Stevenson. Monsieur Sherlock Holmes, le plus éminent et respecté des détectives privés d'Angleterre, a été appelé en renfort par ordre du président Cleveland, qui demande à chacun d'entre vous son concours pour régler une affaire de portée nationale des plus graves.
« Monsieur le vice-président ?»
balbutia le divisionnaire Moore avant d'en perdre la voix. Holmes avait entendu dire par Hay que le vice-président Adlai Stevenson se distinguait par sa modestie. Passé sans transition du poste d'assistant du maître général des postes à celui de vice-président sur une décision de dernière minute du parti de Cleveland à la Convention démocrate de 1892, il pouvait se présenter dans n'importe quelle assemblée publique ou privée de Washington sans être reconnu.
Quatre ans plus tard, Holmes ne serait pas surpris de lire dans le Times de Londres cette réponse du vice-président Adlai E. Stevenson alors qu'on l'interrogeait sur son rôle et qu'on lui demandait si le président Cleveland l'avait jamais consulté sur quoi que ce soit. Pas encore, mais il reste encore plusieurs semaines avant la fin de mon mandat. « Messieurs, commença Holmes après s'être assuré que l'ancien divisionnaire Brock lui prêtait de nouveau attention, nous faisons face à un état d'alerte maximum. Nous avons eu vent d'un grand complot fomenté par les anarchistes pour assassiner Sa Majesté la Reine Victoria, ainsi que les monarques, empereurs et dirigeants élus d'une douzaine d'autres pays, à commencer par le président américain, Monsieur Grover Cleveland, avant le 1er mai. » Le vice-président se chargea de faire taire le brouhaha général et la rencontre se transforma en une séance de questions-réponses à laquelle Sherlock Holmes se plia avec calme. Monsieur Drummond, chef du Secret Service.
Ces informations concernant le président Cleveland sont-elles fiables, monsieur Holmes?
Sherlock Holmes.
Parfaitement fiable, monsieur Drummond.
Monsieur Drummond, chef du Secret Service.
Cette mise en garde est-elle étayée par des faits concrets ou bien s'agit-il comme d'ordinaire d'une menace diffuse?
Sherlock Holmes. Nous avons de fortes raisons de penser que l'attentat contre le président Cleveland est prévu pour le 1er mai, le jour de la fête des travailleurs de l'Internationale Socialiste, en commémoration de l'incident de Haymarket Square, et qu'il aura fort probablement lieu au moment où il inaugurera l'exposition universelle de Chicago. Monsieur Rockhill, secrétaire exécutif du département d'État.
Allons-nous devoir faire face à un nouveau Haymarket Square, monsieur Holmes? Une émeute, des bombes, des tirs sur le président et sur la police?
Sherlock Holmes.
Il faut envisager tous les cas de figure. Mais nos informations indiquent qu'il s'agira plus probablement de l'œuvre d'un ou deux tueurs professionnels à la solde des anarchistes.
Monsieur Drummond, chef du Secret Service.
Connaissons-nous l'identité de ces tueurs à gages?
Sherlock Holmes.
Oui.
Voici des photographies des deux hommes. Le plus âgé est une vieille connaissance, le colonel Sebastian Moran. Le plus jeune est le plus dangereux, Lucan Adler, âgé de 21 ans. Ce cliché est l'un des seuls que nous possédons. Monsieur Drummond, vous serait-il possible de faire tirer des impressions en gros plan à partir de cette photo? Commandant Drummond, chef du Secret Service.
Bien entendu.
Il regarda la photo prise par Clover Adams, tandis que ses compagnons tendaient le cou pour essayer de la voir aussi.
« Mais cet Adler n'est qu'un gamin ?»
Sherlock Holmes.
« Le cliché a été pris il y a 7 ans, messieurs. Lucan Adler avait alors 13 ans.
Un gamin.
Vous avez raison.
Mais déjà à cet âge, il était excellent chasseur et tireur, dressé à tuer par son tuteur, le colonel Sebastian Moran. » Ancien divisionnaire Brock de la police métropolitaine.
Qui a pris cette photo de Lucan Adler?
Sherlock Holmes.
Je ne peux malheureusement pas vous révéler cette information pour l'instant, mais je vous garantis qu'il s'agit bien de Lucan Adler et que son visage, bien qu'aminci et plus cruel, est encore très semblable aujourd'hui.
Monsieur Drummond, chef du Secret Service.
Comment le savez-vous, monsieur Holmes?
Sherlock Holmes.
J'ai croisé sa route ces dernières années.
Ancien divisionnaire Brock de la police métropolitaine. Rire ironique.
Mais quoi? Le célèbre Sherlock Holmes a croisé la route de notre tueur et il l'a laissé filer sans le faire arrêter? Comment est-ce possible? Oh, les facultés de notre fin limier s'atténueraient-elles avec l'âge?
Sherlock Holmes. C'était Lucan Adler qui me pourchassait, monsieur Brock, et non l'inverse. Il y a 2 ans, il m'a atteint de 3 balles de fusil tirées à très longue distance. Je n'ai survécu que par le plus grand des hasards, et seulement parce que les balles étaient chemisées à la manière des munitions militaires, ce qui fait qu'elles m'ont traversé de part en part sans ralentir ni dévier. Des munitions ordinaires auraient tout emporté sur leur passage, poumons, cœur et colonne vertébrale. Long silence. Divisionnaire Moore de la police métropolitaine.
Et sur quelle base nous demandez-vous de croire à cette grande conspiration anarchiste? Quelle preuve avez-vous? Pourquoi l'attentat aurait-il lieu le 1er mai?
Sherlock Holmes.
Je m'appuie sur des informations spécifiques obtenues par les services secrets de Sa Majesté la Reine. Elles ont été corroborées par le nouveau préfet de police de Paris, Monsieur Louis Lépine, et par l'inspecteur Hanau de la Sûreté, ainsi que par les services secrets belges et français.
Et pour finir, nous bénéficions d'informations obtenues à travers mes propres enquêtes, menées depuis 7 ans à la suite de ma collaboration avec la police de Chicago dans l'affaire du massacre de Haymarket Square. Ancien divisionnaire Brock de la police métropolitaine.
À l'heure actuelle, l'opinion générale aux États-Unis, Monsieur Holmes, est que le procès a été mené à charge par un juge injuste et des procureurs trop zélés. On dit, Monsieur Holmes, que les 5 hommes pendus étaient des martyrs du mouvement ouvrier, morts pour la journée de 8 heures.
Sherlock Holmes, si ce que vous dites est vrai, Monsieur Brock, alors l'opinion publique américaine est profondément stupide. Divisionnaire Moore de la police métropolitaine.
Il est en tout cas certain, Monsieur Holmes, que le nouveau gouverneur de l'Illinois, Monsieur Altgeld, se prépare à amnistier Schwab, Filden et Nib. Les 3 qui n'ont pas été condamnés à mort, mais à de longues peines de prison. Une réhabilitation totale. Comme le disait Monsieur Brock, l'opinion pense que le procès a été particulièrement inique et que Fisher, Ling, Parsons, Spies et Engel ont été injustement exécutés.
Sherlock Holmes. Seuls 4 de ces hommes ont été pendus, messieurs. Engel, Spies, Parsons et Fisher. Ling, l'homme qui a fabriqué la bombe, s'est suicidé en mordant un détonateur qu'il avait dissimulé dans sa cellule. Son visage a été emporté. Il n'est mort qu'au bout de plusieurs heures. Ancien divisionnaire Brock de la police métropolitaine.
Et pourtant, l'opinion du gouverneur Altgeld et de beaucoup, beaucoup d'autres est à présent, 7 ans plus tard, que ces hommes étaient des héros de la classe ouvrière.
Sherlock Holmes. Ces 8 hommes étaient directement coupables de meurtre ou avaient participé à la préparation de l'attentat. Je l'ai prouvé. Et j'ai convaincu la police de Chicago et le tribunal. Je suis parvenu à ce résultat, entre autres, en déchiffrant le code secret qu'ils utilisaient pour communiquer entre eux dans les pages du journal anarchiste, l'Arbeiterzeitung. C'est ainsi qu'ils ont organisé la fabrication des bombes et la collecte de l'armement, et monté le guet-apens dans lequel est tombée la police le 1er mai à Haymarket Square. Monsieur Drummond, chef du Secret Service.
Mais on n'a pas pris l'homme qui a jeté la bombe. Schnaubelt.
Sherlock Holmes.
Rudolf Schnaubelt.
Commandant Drummond, chef du Secret Service.
Oui, Schnaubelt s'est volatilisé. On ne le retrouvera sans doute jamais.
Sherlock Holmes.
Détrompez-vous, Monsieur Drummond. J'ai localisé Rudolf Schnaubelt en Argentine, où il coule des jours paisibles à Buenos Aires.
Nouveau brouhaha, puis le vice-président Stevenson lève la main pour demander le silence. Quand il l'obtient, il donne la parole au chef de la police métropolitaine. Divisionnaire Moore de la police métropolitaine.
Je n'ai pas été informé de l'arrestation de Schnaubelt.
Sherlock Holmes. Les autorités compétentes de votre pays ont pourtant été dûment informées, et à plusieurs reprises, de nos découvertes. Mais assez parlé de cette vieille affaire. Ce qui compte, messieurs, c'est ce que vous allez faire dans les 4 prochaines semaines pour sauver le président Cleveland. Holmes sortit du cercle et s'adossa à une bibliothèque remplie de livres de réglementation et de spécifications sur la construction des navires à vapeur. Le vice-président Stevenson fit face à l'Assemblée.
Le président ordonne, messieurs, que ce groupe, auquel pourra se joindre qui vous jugerait bon, se réunisse 2 fois par semaine pour mettre en place un système de protection présidentielle. Je pense pour ma part qu'il suffira de nous retrouver les dimanches matins de 10h à midi.
Le dimanche ? Protesta Brock.
Vous voudriez que je renonce à mon dimanche en famille et à la matinée à l'église pour cette ombre du nombre de dangers ? Qui plus est, je ne suis plus officiellement concerné. Je n'ai aucune raison de venir.
Le président a souhaité que vous participiez à cette première réunion.
Répondit le vice-président Stevenson, toujours affable.
« Je me demande bien pourquoi !»
bougonna l'ancien divisionnaire, fatigué.
« Votre département était profondément corrompu au moment de votre démission. »
Intervint Sherlock Holmes.
« Vous êtes parti, mais beaucoup de ceux qui sont restés sont montés en grade. Si des fonctionnaires de police à la solde des gangs ou des anarchistes venaient à ébruiter nos travaux, le coup pourrait nous être fatal. » Nous avons besoin de vos lumières dans ce domaine. En d'autres termes, le président des États-Unis d'Amérique vous demande de jouer les balances.
Brock manqua s'étrangler, mais ne protesta pas.
Parfait. Poursuivons.
Déclara Stevenson comme s'il reprenait le cours d'une séance au Sénat après l'adoption d'une motion mineure.
Monsieur Moore, pourriez-vous, s'il vous plaît, nous expliquer quel rôle joue votre département dans la protection du président ?
Le divisionnaire s'éclaircit la voix.
La police métropolitaine assure la sécurité du président lors de ses apparitions publiques à Washington.
Vos officiers de police accompagnent-ils le président lorsqu'il se rend à ces événements et en revient ?
Demanda Stevenson.
Non, monsieur le vice-président.
Stevenson promena son regard des uns aux autres, tournant vers eux son visage rond et pâle à la moustache terne.
« Qui accompagne le président dans ses déplacements en ville ?»
Silence.
« Qui protège le président quand il n'est pas à la résidence présidentielle ?»«
La garde de la Maison-Blanche, »
répondit le divisionnaire Moore.
« Cette unité est-elle placée sous votre contrôle ?»«
Pas directement, »
admit Moore avec un toussotement.
Nous formons les recrues qui la composent, mais la garde de la Maison-Blanche est autonome.
Qui en a la charge ?
Demanda Stevenson.
Le sergent O'Malley, monsieur.
Comment cela ? Un simple sergent ?
C'est exact.
De combien d'hommes dispose votre police métropolitaine, Moore ?
200, monsieur le vice-président.
Sans compter les effectifs de la Maison-Blanche.
Sans les compter.
Et combien d'hommes sont assignés à l'unité de la Maison-Blanche ?
3, jusqu'à ce printemps, mais la recrudescence des menaces de mort reçues par le président Cleveland et leur violence a conduit à augmenter les effectifs qui sont passés à 27.
Et j'imagine qu'ils se répartissent en 3 équipes se relayant 24 heures sur 24.
Plus ou moins, oui.
Donc, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit, le président doit avoir environ 9 hommes assignés à sa protection.
En effet,
dit Moore, qui visiblement perdait patience.
C'est de loin la garde la plus nombreuse jamais donnée à un président des États-Unis, à l'exception du président Lincoln, qui bénéficiait parfois de la présence d'une unité de la cavalerie ou de l'infanterie fédérale stationnée dans le périmètre de la Maison-Blanche.
Mais pas le soir de l'attentat au théâtre Ford.
Non, pas ce soir-là. Le planton qui montait habituellement la garde dans le couloir devant la loge présidentielle n'était pas présent.
Le 1er mai, quand le président se rendra à Chicago pour inaugurer l'exposition universelle devant 100 000 personnes, combien d'officiers de la police métropolitaine et de la garde de la Maison-Blanche et de l'armée accompagneront le président ?
Demanda Stevenson. Il y eut un silence et des regards s'échangèrent. Finalement, le divisionnaire Moore expliqua
« Il n'y aura personne, monsieur le vice-président. Quand le président se déplace dans une autre ville, la charge de sa protection passe à la police du secteur concerné. »
Stevenson dévisagea le divisionnaire Moore un long moment, dans une atmosphère excessivement tendue. Le regard du vice-président restait aussi neutre que sa voix, mais il y avait de l'électricité dans l'air. Il tourna les yeux vers la haute silhouette du chef du Secret Service.
« Monsieur Drummond, dit-il, d'après ce que je sais, votre service a assuré plusieurs fois la protection présidentielle ces derniers mois. »«
Modestement, répondit Drummond. Nous disposons d'agents bien entraînés et armés, comme vous le savez. » Et la garde de la Maison-Blanche nous demande parfois du renfort.
À la Maison-Blanche même ou à l'extérieur ?
Quand il doit sortir pour faire un discours ou pour toute autre apparition publique.
Mais c'est le rôle de la police métropolitaine !
S'indigna le divisionnaire Moore, qui ignorait de toute évidence que le Secret Service marchait parfois sur ses plates-bandes.
Oui, divisionnaire, répondit Drummond, je le sais. Mais à l'occasion de grands événements, par exemple à Noël dernier, lors des vœux du président devant une immense foule à City Park, votre service n'avait envoyé que 3 policiers en uniforme pour sa protection. À la demande de la garde de la Maison-Blanche, sans doute à cause des menaces spécifiques récemment reçues, nous avons envoyé 6 agents en civil armé.
Parfaitement inutile !
Grogna le divisionnaire. Sans tenir compte de cette interruption, le vice-président poursuivit.
Monsieur Drummond, le Secret Service du département du Trésor n'a-t-il pas commencé à accompagner aussi le président lors de ses déplacements en ville ?
Ah oui, une bonne farce !» s'exclama l'ancien divisionnaire Brock avec un gros rire. « 6 hommes en carriole s'échinant à poursuivre la voiture présidentielle pour finir perdu dans K Street. On en rit encore dans tout Washington !»
En effet, admit Drummond, monsieur le vice-président, l'expérience nous a montré qu'il n'était pas efficace de suivre la voiture présidentielle dans un véhicule séparé. Et le président Cleveland et ses conseillers ne veulent pas de nos agents avec eux dans la voiture, ce qui est compréhensible.
Le vice-président croisa les bras.
Monsieur Drummond, si le Congrès venait à confier la protection présidentielle au Secret Service, à temps plein et aussi bien à Washington que dans ses déplacements dans d'autres villes, quel délai faudrait-il pour que votre service soit opérationnel?
Drummond parut réfléchir une seconde.
Il nous faudrait embaucher et former des agents, monsieur le vice-président. Pour l'instant, nos effectifs ne nous permettent pas de nous mettre au service du président à temps plein ici à Washington. Et la formation de nouveaux agents est indispensable. Les qualités requises pour les gardes du corps sont très spécifiques et dépassent de loin ce que l'on exige d'un agent de police ordinaire.
« Allons donc !»
ironisa Moore. Drummond posa un regard froid sur le divisionnaire et reprit d'un ton ferme.
Les agents de la police métropolitaine sont-ils entraînés à se jeter devant la personne qu'ils protègent pour prendre une balle à sa place?
Quelle idée absurde! La police se saisit du suspect ou déjoue les plans des tueurs avant que les coups de feu ne soient tirés. On ne leur demande pas de se suicider!
Les agents de protection rapprochés de notre service seront justement entraînés à ces techniques. Prévenir l'assassinat si possible, arrêter la balle pour sauver le président si nécessaire.
Moore détourna les yeux.
Combien de temps vous faudrait-il, monsieur Drummond?
Répéta le vice-président.
Pour assurer la sécurité personnelle du président 24 heures sur 24, y compris dans ses déplacements? Pas avant début janvier. Il faudra ouvrir de nouvelles sections du service dans différentes villes américaines et former nos gardes du corps aux techniques spécialisées.
Stevenson hocha la tête presque tristement, comme s'il s'était attendu à cette estimation.
« Mais pourriez-vous fournir une protection efficace en attendant, si on vous le demandait ?»«
Oui, c'est faisable. » »«
Prévoyez d'envoyer au moins 8 de vos agents avec le président Cleveland à Chicago en mai. »«
Bien, monsieur le vice-président. »«
Puis-je suggérer quelque chose, messieurs ?» intervint Sherlock Holmes. Tous se tournèrent vers le détective, très à son aise, adossé à la bibliothèque.
Je pense qu'il serait bon, monsieur Drummond, que les agents de la garde rapprochée soient sélectionnés en partie pour leur haute taille et la largeur de leur torse.
Ils cacheront le président au public,
protesta l'ancien divisionnaire Brock.
Mais justement, répondit Holmes, il est même dommage que cette escouade de gardes du corps ne puisse pas entourer le président quand il saluera les dignitaires et qu'il s'adressera à la foule. Plus ils feront écran, plus le président sera en sécurité.
Drummond approuva tout en notant.
Nous avons de grands et forts gaillards parmi nos agents,
indiqua-t-il.
Je les placerai aux côtés du président quand il évoluera à pied ou sera seul sur une estrade.
« Parfaitement ridicule !»
explosa l'ancien divisionnaire Brock. Sans lui prêter attention, le vice-président Adlai E. Stevenson ajouta
« Bien, nous nous retrouverons ici tous les dimanches jusqu'à ce que ce transfert de la protection présidentielle soit bien au point. »
Son regard passa de Holmes à Brock puis à Moore.
« J'admets qu'il ne sera sans doute pas nécessaire que toutes les personnes présentes aujourd'hui assistent aux prochaines réunions. »
« Comment voulez-vous nommer ce groupe de réflexion ?»
demanda Rock Hill du département d'État. Stevenson eut l'ombre d'un sourire.
« Puisque nous nous réunissons dans les bureaux de l'inspection des navires à vapeur, je suggère que nous nous baptisions Commission de l'inspection des vapeurs. Des objections ?»
Personne n'ouvrit la bouche. Avant de donner le signal du départ, le vice-président reprit la parole.
Une dernière question, messieurs. Qui se charge de la coordination avec la police de Chicago pour la protection du président à l'exposition universelle du 1er mai?
Un silence embarrassé suivit.
Je peux m'en charger, dit enfin Drummond.
Je vous donnerai un coup de main,
intervint le divisionnaire Moore.
J'avais déjà prévu d'envoyer un ou deux télégrammes.
Sherlock Holmes se redressa, prêt à partir.
Je dois aller à Chicago la semaine prochaine pour organiser la suite des événements, déclara-t-il en ajustant ses gants de chevreau.
Je serais ravi de travailler avec Monsieur Drummond et son Secret Service pour assurer la coordination avec la police locale.
Les six hommes prirent l'ascenseur deux par deux, Holmes descendant avec le vice-président. Pour sortir de la cabine, il fallait monter les 20 centimètres formés par l'enfoncement de la lourde masse du mécanisme dans le sol. L'inspecteur général de l'inspection des navires à vapeur et son assistant attendaient dans le hall le visage rouge d'indignation.
« Grand merci, Monsieur Dismond, » dit le vice-président à l'inspecteur général.
« Je vous ferai indiquer quel week-end nous allons vous réemprunter votre bureau. »
« Invraisemblable !»
maugréa Dismont alors que son assistant et lui descendaient dans l'ascenseur pour retourner travailler et que Holmes ouvrait la porte de la rue au vice-président. Une fois sur le trottoir, Stevenson se tourna vers le détective.
« C'est votre avis à vous aussi ?»«
Je vous demande pardon. »
« Toute cette opération, et même cette menace d'attentat anarchiste contre le président, sont-elles invraisemblables ?» « Ne perdons-nous pas notre temps ?»«
Nous ne le saurons que trop vite, monsieur le vice-président. » Sur quoi Holmes le salua en touchant le bord de son haut de forme avec le pommeau de sa canne, puis il se dirigea vers Constitution Avenue.